Chapitre 22. L'inconcevable. Non loin de Rekilgatan, à Westeros, trône un grand bâtiment d'un blanc éclatant. Les habitants du quartier bénéficient de la proximité de l'école Lilag, d'un terrain de football et d'un cours de tennis. Un jeune homme tenant un casque de moto à la main passe la porte du numéro 11 de l'immeuble. Il se nomme Stefan Bergqvist et aura bientôt 17 ans. Il étudie au lycée technique et mécanique et habite avec sa mère et son concubin. Il a de longs cheveux blonds et un anneau en argent à la lèvre inférieure. Il porte un t-shirt noir et un large pantalon dont le bas s'est déchiré sous ses baskets. Sans se presser, il flâne jusqu'au parking, accroche le casque sur le guidon de sa motocross et s'engage lentement sur la voie piétonne qui contourne son immeuble. Il longe les voies ferrées, passe sous le viaduc Norleden, entre dans la zone industrielle et s'arrête près d'une baraque de chantier recouverte de graffitis bleus et argentés. Stéphane et ses amis ont l'habitude de se retrouver ici pour faire des compétitions de motocross sur la piste qu'ils se sont aménagée le long du remblai. Ils passent sur les différentes voies de garage, puis rejoignent la route terminale Wegen pour revenir. Ils ont commencé à se réunir sur ce terrain il y a 4 ans, lorsqu'ils ont trouvé la clé de la baraque suspendue à un clou entre les chardons. Laissée sur place, à la fin d'un chantier, elle était abandonnée depuis presque 10 ans. Stéphane gare sa moto, ouvre le cadenas sous le capot de protection, baisse la barre en acier et pousse la porte en bois. Il entre et referme derrière lui. En consultant l'heure sur son téléphone portable, il s'aperçoit que sa mère a essayé de le joindre. Il ignore qu'un homme l'observe. Celui-ci est dissimulé derrière une benne à ordures, près d'un bâtiment industriel de l'autre côté de la voie ferrée. Il a une 60aine d'années et porte une veste grise en daim et un pantalon beige. Stéphane saisit un paquet de chips qui se trouve dans l'évier de la kitchenette, verse les dernières miettes dans sa main et les mange. La baraque est éclairée par 2 fenêtres grillagées aux vitres sales. Stéphane attend ses amis en feuilletant l'un des vieux journaux qui traînent toujours ici et qui sont disposés en pile au-dessus de l'armoire à plan. En une du journal Lectir, une jeune femme au sein nu, sous le titre « Imaginez, être payée pour se faire lécher ». L'homme à la veste en daim sort tranquillement de sa cachette, franchit le treillis dont s'échappent quelques câbles électriques et traverse le remblai des voies ferrées. Il rejoint la moto de Stéphane, remonte la béquille et la fait rouler silencieusement jusqu'à la porte de la baraque. L'homme scrute un moment les environs, puis il couche la moto sur le sol et la pousse fermement de telle façon qu'elle bloque la porte. Il dévisse le bouchon du réservoir et laisse l'essence s'écouler sous la baraque. Stéphane feuillette toujours le vieux journal. Il observe des photographies jaunies de femmes dans une prison. L'une d'entre elles, une blonde, est assise dans une cellule et écarte les jambes en exhibant son sexe devant un gardien. Stéphane fixe l'image et tressaille lorsqu'il entend une sorte de bruissement à l'extérieur. Il tend l'oreille, croit distinguer des bruits de pas et referme rapidement le journal. L'homme s'empare du bidon d'essence rouge que les garçons avaient caché dans un taillis, puis le vide autour de la baraque. Ce n'est qu'une fois qu'il est arrivé de l'autre côté du petit abri que les premiers cris retentissent. Le garçon cogne sur la porte, puis tente de l'ouvrir. Ses pas résonnent sur le plancher, puis son visage inquiet apparaît derrière la fenêtre sale. « Ouvrez la porte !» ordonne-t-il d'une voix forte. « C'est pas drôle !» L'homme à la veste en daim ne réagit pas et déverse le reste de l'essence, puis repose le bidon. « Qu'est-ce que vous faites ?» crie le garçon. Il se jette contre la porte, tente de l'ouvrir à coups de pied, mais elle ne bouge pas d'un millimètre. Il appelle sa mère, mais tombe directement sur la messagerie. Rythmé par l'angoisse, les battements de son cœur s'intensifient, tandis qu'il essaie d'apercevoir quelque chose par les fenêtres bardées de gris en courant de l'une à l'autre. « Mais vous êtes cinglé !» Lorsque soudain il sent les vapeurs d'essence lui piquer le nez, la peur le submerge totalement et lui noue le ventre. « Hé !» crie-t-il d'une voix terrifiée. « Je sais que vous êtes toujours là !» L'homme sort une boîte d'allumettes de sa poche. « Qu'est-ce que vous voulez? Pitié, dites-moi au moins ce que vous voulez !»«
Ce n'est pas votre faute, mais un cauchemar doit se concrétiser.
dit calmement l'homme en frottant une allumette contre le grattoir.
« Laissez-moi sortir !»
hurle le garçon. L'homme jette l'allumette enflammée dans l'herbe humide. On entend un souffle, comme lorsqu'une voile est soudain gonflée par le vent. Les flammes bleuâtres jaillissent du sol avec une telle rapidité que l'homme doit reculer de plusieurs pas. Le garçon crie à l'aide. Le feu envahit désormais tout l'abri. L'homme s'éloigne. Il sent la chaleur du feu sur son visage et entend les cris terrorisés. La baraque est engloutie par les flammes en moins de quelques secondes et la chaleur fait bientôt éclater les vitres derrière les grilles. Le garçon pousse un atroce hurlement lorsqu'il sent ses cheveux se consumer sous l'effet de la chaleur. L'homme traverse à nouveau les voies ferrées, se poste près des bâtiments industriels et regarde la vieille baraque brûler comme une torche. Après quelques minutes, l'homme voit approcher un train de marchandises en provenance du nord. Il roule lentement et en émettant un lancinant grincement sur les rails. Les wagons passent un à un devant les hautes flammes, tandis que l'homme à la veste en daim disparaît en haut de Stenbigatan.